Elena Morin, ça, on peut le dire, hein, ça décoiffe en ce moment dans le sud-est.
Bah oui, le vent qui souffle très fort, qui va se renforcer cette nuit dans le sud-est avec des rafales à 110-120 km/h. Vent qui devrait tout de même mollir à partir de demain avec un ciel bleu hein, sur le sud de la Loire ainsi que le proche Atlantique. Alors plus agité sur la Corse avec de la pluie ou de la neige à 800 mètres, un peu moins que ce qui est tombé quand même aujourd'hui sur les Vosges et le Jura. Sur le nord-est, fini justement la neige. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Ce sera le cas jusqu'en Normandie et région parisienne, plus nuageuse pendant au nord de la Seine, le tout dans une atmosphère bien rafraîchie, de 9 à 19 degrés du nord vers le sud. Alors les températures, elles vont monter à partir de mercredi, le reste de la semaine sera bien plus printanière, avant un nouveau rafraîchissement pour la semaine prochaine. Mais bon, à surveiller, alors non, ce que je veux dire, c'est à surveiller un peu plus loin de nous, le cyclone Joanine sur les îles de Rodrigue au large de Madagascar, cyclone intense qui suit celui qui a déjà ravagé le Mozambique la semaine dernière. L'île Rodrigue avait déjà été touchée par un autre cyclone en février. 90% du réseau électrique avait été détruit.
Merci beaucoup, Elena Morin.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. 19h01, vous êtes avec Mathieu Béliard.
Et avec Marion Calais pour l'information à la une. Ces premières précisions sur la blessure d'une manifestante samedi à Nice.
Une septuagénaire touchée à la tête après être tombée au moment de la dispersion du rassemblement dans un périmètre interdit. Une chute en arrière qui n'est pas le fait d'agents de sécurité, selon le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre.
Elle était vraiment dans un flux qui avançait, avec des personnes qui reculaient devant les forces de sécurité. Ce dont on est sûr aussi, c'est qu'elle n'a pas été touchée par les forces de sécurité. Que ce soit la vidéosurveillance de la ville ou les images de France 3, on ne voit aucun contact direct entre un agent de sécurité et cette dame. Il y a un phénomène collectif, quoi, l'évidence là-dedans.
Le procureur de la République de Nice au micro Europe 1 de Jacques Terrance. Plusieurs plaintes ont été déposées aujourd'hui, notamment par la famille de la septuagénaire. Une visite et des bonnes nouvelles, le président chinois en France, avec ce soir notamment cette annonce de l'Elysée. Pékin commande à Airbus 300 avions. Prix catalogue, ça représente plus de 30 milliards d'euros. Forcément, ce soir, le numéro 2 de l'avionneur européen, Guillaume Faury, a le sourire.
C'est un contrat d'une dimension très importante. C'est un contrat général qui couvre des appareils pour différentes compagnies aériennes. Alors, c'est des appareils qui sont construits soit en Europe, soit en Chine, parce que vous savez qu'on a une chaîne d'assemblage à Tianjin qui produit de plus en plus d'appareils. Et donc on est en montée en cadence. Non, il y a un nombre d'appareils pour la Chine qui est construit, qui est fabriqué en Chine, à Tianjin, et un complément qui est fabriqué en Europe. On est dans le cadre d'une relation à long terme avec notre partenaire chinois qui évolue au fil du temps. Et c'est un signe fort de confiance que je passe dans le cadre de la relation long terme qu'on a, nous, Airbus, avec notre partenaire chinois.
Le numéro 2 d'Airbus au micro Europe 1 de Jean-Rémy Baudot, signature par ailleurs d'un accord de coopération pour l'envoi d'instruments scientifiques français lors de la mission chinoise sur la Lune dans les prochaines années. Emmanuel Macron a assuré par ailleurs avoir fait part des préoccupations européennes sur le respect des droits fondamentaux en Chine. C'est devenu un critère d'achat pour de nombreux consommateurs. Le produit en France pour faire vivre les producteurs de l'Hexagone, pour la garantie de certaines normes sanitaires. Or, ce critère, on découvre aujourd'hui qu'il a été utilisé pour vendre plus cher des kiwis, en réalité produits en Italie. 15 000 tonnes au total écoulées, une tromperie révélée par la répression des fraudes, alertée par les producteurs et leur association présidée par François Lafitte.
Nous sommes des producteurs français qui travaillons dur tout ce qui est les efforts de qualité, qui avons des contraintes réglementaires qui garantissent une qualité. Et on voyait bien que sur le marché, on voyait parfois des produits qui ne correspondaient pas à ces qualités-là et on se posait la question de savoir comment ces produits-là pouvaient être sur le marché. Et on est très heureux que les fraudes, les services officiels de l'État puissent enfin faire un peu le ménage, si j'ose dire. Il y a 6 entreprises qui sont sanctionnées et les sanctions seront certainement très lourdes. Cela nous permet d'être certains qu'aujourd'hui, ces entreprises-là sont hors d'état de nuire. Pour nous, c'est une grande satisfaction.
Le président de l'association Kiwi Fruits de France, il répondait pour Europe 1, Martin Lange. Il s'est ouvert ce matin le procès en appel du frère de Mohamed Merah. Il avait été condamné en première instance pour association de malfaiteurs terroristes. Abdelkader Merah avait été acquitté en revanche pour complicité. La question de son rôle dans les tueries de Toulouse et de Montauban, c'est justement tout l'enjeu de ce nouveau procès. Naoufal Imdiaten est le frère de l'un des militaires tués en 2012.
Ce qui dégage pour moi, il montre qu'il a gagné, il est en train de gagner. Et ça, pour nous, ça nous fait beaucoup, beaucoup de mal. Et on a besoin d'être tous unis et de lui montrer que non, on va continuer ce débat jusqu'à que tu sois enfermé à perpétuité. C'est mon but. Pour la raison de prouver que cette personne était bien le cerveau et le menteur de Mohamed Merah. Et ça, la justice ne l'a pas apprécié sur le précédent procès. Mais ce procès-là, actuellement, on va tout faire pour prouver, avec tout ce qu'on a, pour prouver au maximum de sa complicité.
Des propos recueillis pour Europe 1 par Chloé Triomphe. Une saison cauchemardesque, 2 succès seulement, pas de podium depuis la mi-décembre, mais pas question encore d'arrêter après son triomphe au JO. Martin Fourcade s'était engagé à poursuivre sa carrière au moins pendant 2 saisons et le biathlète compte bien s'y tenir.
Je ne me serais pas vu arrêter là-dessus. Et parce que, de toute façon, l'engagement que j'ai pris envers moi-même, il était 2 saisons. Donc voilà, je ne me suis pas posé la question, même si ça a été dur, même s'il y a forcément des courses où on a envie de tout envoyer bouler. À aucun moment j'ai pensé à arrêter ma saison, comme à aucun moment j'ai pensé que ça pouvait être la saison de trop. Voilà, il y a forcément du négatif dans ce que j'ai vécu, mais à aucun instant j'ai regretté d'avoir rempilé après Pyeongchang.
Martin Fourcade qui continue donc, et il répondait à Corinne Boulou pour Europe 1. J'ajoute par ailleurs ce rendez-vous ce soir, hein, bien sûr, 20h45, la France face à l'Islande, 2e match des qualifications pour l'Euro 2020. Ce sera à suivre en fil rouge sur Europe 1.
Merci beaucoup Marion Calo, 19h06. Jacques est en ligne avec nous en Essonne ce soir à Draveil. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur Europe 1. Vous réagissez déjà à ce qui sera notre débat entre 19h20 et 20h. La Chine, partenaire ou rival, danger ou opportunité. Jacques, c'est à vous.
Je suis assez mitigé déjà, même par rapport à l'annonce là, des 300 avions qui vont être vendus à la Chine. Des ventes d'Airbus, voilà. On peut se poser la question, est-ce qu'il va encore y avoir, avec transfert de technologie ? On sait que la recherche coûte cher et elle est longue. Donc, est-ce que les Chinois rattrapent tout leur retard grâce à des moyens de pression comme ça ? Bien sûr, c'est un marché qui est
La Chine vous fait peur, Jacques, en tant que puissance économique ?
Ben, c'est pas que ça me fait peur, c'est que je me dis, en Europe, on se donne pas les moyens de répondre à ce que les Chinois font subir aux gens. Une entreprise française qui va s'installer en Chine, elle est obligée d'avoir un partenaire chinois. Une entreprise chinoise qui vient s'installer en Europe, ils font ce qu'ils veulent. Dixit, l'aéroport de Toulouse. Maintenant, ça leur plaît plus, ça y est, ils s'en vont, quoi. Et ils ramassent les royalties au passage. Donc, moyen de pression, moyen d'échange, zéro.
Je vous sens,
on s'aperçoit qu'à travers...
Eh bien écoutez, j'en parlerai à mes invités. Je vous le disais, partenaire ou rival, est-ce qu'il faut voir aussi des opportunités ou un danger ? Rappelons aussi qu'au-delà d'un partenaire, nous sommes parfois aussi un enjeu pour ces puissances-là, 500 millions de consommateurs en Europe. Jacques, ces questions-là, nous les poserons entre 19h20 et 20h tout à l'heure, soyez-en sûrs. Intervenez, vous qui êtes à l'écoute, si vous le souhaitez, sur cette question chinoise. La Chine à l'honneur ce soir à Paris. Vous intervenez au 39-21, 19h08.
Europe 1.
À suivre l'interview politique avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce soir Guillaume Larrivé. Il est déjà installé dans le studio d'Europe 1. On revient dans quelques secondes.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard.
Bonsoir Sonia Mabrouk.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Votre invité est député de Lyon à l'Assemblée nationale, Guillaume Larrivé, qui est aussi secrétaire général délégué des Républicains. Au cœur de votre interview, la petite phrase d'Emmanuel Macron qui fait polémique, les européennes bien sûr, et la visite du président chinois.
Bonsoir Guillaume Larrivé.
Bonsoir.
La France déroule donc le tapis rouge pour le président chinois. C'est tout à fait normal, c'est à la hauteur de l'importance et de la toute puissance chinoise.
En tout cas, il faut ouvrir les yeux sur la réalité. La réalité, c'est que la Chine développe aujourd'hui une politique de nature impérialiste. J'ai envie de dire oui au partenariat, non à la vassalisation. Il faut qu'on ouvre les yeux sur la réalité. Il faut qu'on s'organise pour pouvoir peser. Il y a 1,4 milliard de Chinois. Il y a 500 millions d'Européens. Un demi-milliard quand même d'Européens. Il faut qu'on ait vis-à-vis de la Chine une approche très réaliste. Ça veut dire une réciprocité dans nos échanges internationaux. Ça veut dire des choses très concrètes. Par exemple, nos marchés publics. Aujourd'hui, les marchés publics européens, ils sont complètement ouverts. Tandis que les marchés publics chinois, eux, ils ne sont pas totalement ouverts à des entreprises européennes. Il faut établir un vrai rapport de force.
Vous dites impérialisme chinois. Est-ce que ce n'est pas une vision un peu dépassée que celle de toujours voir ce péril jaune, de voir un rival systématique ?
Écoutez, là encore, il faut regarder les choses telles qu'elles existent. L'opération de la route de la soie, ce sont des centaines et des centaines de millions d'investissements chinois, publics ou parapublics, qui sont faits dans une logique qui est bien une logique impériale. Regardez par exemple le choix du gouvernement italien, c'est passionnant. On a un gouvernement italien qui est plutôt nationaliste et qui pourtant entre dans une logique de vassalisation par rapport à la Chine. Moi, ça me rend triste. J'ai envie que les Européens se réveillent, s'organise. On ne doit pas être prisonnier, Sonia Mabrouk, d'un duo qui serait un duel sino-américain. Il doit y avoir une place pour l'Europe.
Pour l'instant, c'est plutôt un duel qu'un duo sino-américain. Guillaume Larrivé, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la Chine, c'était la moitié du PIB européen. Aujourd'hui, c'est l'équivalent. Est-ce que vraiment, c'est la Chine qui a un appétit gargantuesque ou c'est nous qui en manquons sérieusement? Est-ce que ce n'est pas cette superpuissance qui révèle nos faiblesses à nous?
Vous avez totalement raison. La décennie qui vient de s'écouler a été une décennie perdue pour l'Europe et d'ailleurs dans une large mesure pour la France. On assiste à un basculement du capitalisme vers l'Asie et vers le Pacifique, vers la côte ouest des États-Unis d'Amérique. Et au milieu de cela, l'Europe est en train de décrocher. Et l'un des enjeux des élections européennes, pour nous les Républicains, c'est de faire des propositions extrêmement audacieuses pour que l'Europe se réveille, pour que l'Europe reprenne en main son destin. Nous ne sommes pas condamnés à sortir de l'histoire et à être, demain ou après-demain, des vassaux,
n'oublions
vassaux des
pas,
États-Unis
oui,
ou vassaux de la Chine.
Mais n'oublions pas les touristes chinois. Un milliard et demi, quand on voit les images cet après-midi du président chinois sous l'Arc de Triomphe, ça change des précédentes images avec les violences. Ce sont des images diffusées ce soir en Chine.
Oui, mais c'est pour ça que
c'est
pour ça qu'on a des atouts. Une logique de partenariat,
on
c'est
a
très
des
bien.
Atouts.
Des touristes chinois, c'est formidable. Il y a des atouts, il y a des opportunités. Je ne suis pas dans une logique obsidionale. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est assiégé, qu'il n'y a pas un péril jaune. Non, simplement, il faut quand même regarder la réalité. Quand vous avez d'un côté, aux États-Unis, les GAFA et de l'autre, en Chine, les BATX et qu'au milieu, en Europe, vous avez en réalité rien, c'est-à-dire une période presque de sous-développement numérique. Vous et moi, Sonia Mabrouk, on est producteur de données personnelles lorsqu'on utilise notre iPhone. Et ces données personnelles, elles ont été transformées soit par les GAFA, soit par les BATX. Et nous, les Européens, là-dedans, on n'est pas acteurs, on est passifs.
Vous
il
dites
faut que ça change.
Somme, réveillons-nous, il faut que l'Europe se réveille. Est-ce que plus particulièrement, je veux dire plus singulièrement, la droite doit se réveiller en Europe pour les Européennes, Guillaume Larrivé? On a les différents sondages, notamment le nôtre à Europe 1. Il y a un léger frémissement pour les Républicains, mais véritablement, c'est pas le sursaut. On en est loin.
Je le dis aux Français qui
Qu'est-ce
nous écoutent.
Qui vous arrive?
Oui, réveillons-nous. Réveillons la droite,
temps, hein.
Réveillons la France et réveillons l'Europe. Sur la situation
Vaste
française
défi,
pour les
Réveiller
Européennes.
Déjà la droite, c'est déjà un premier pas.
C'est un défi absolument formidable, mais très sérieusement. Quand vous regardez le clip de campagne de La République En Marche, le parti macroniste, c'est un clip de campagne complètement hallucinant où on nous dit, ouvrez les guillemets, vous n'avez pas le choix, vous êtes condamné à devoir soit épouser les macronistes, soit tomber du côté de la brutalité extrémiste. C'est pas vrai, il y a un autre chemin, un chemin à la fois raisonnable, sérieux, ambitieux.
Mais pourquoi
le chemin
vous
que
n'arrivez
les Républicains
pas
nous proposons.
À convaincre, par exemple, ce soir, peut-être dans quelques heures, la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, devrait démissionner du gouvernement pour officiellement entrer en lice en tant que tête de liste européenne pour La République En Marche. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de profil, justement, pas une novice en politique?
Bon, Madame Loiseau est sans doute quelqu'un de tout à fait respectable, mais c'est une sorte de technocrate relativement grise qui incarne, je crois, assez bien précisément tout ce que nous ne voulons plus de l'Union européenne. Elle est, je crois, assez symbolique d'une Union européenne bureaucratique, aboulique, qui manque de volonté, qui manque de perspective, qui manque d'ambition. Et je vous le dis comme je le pense, je trouve que c'est un
cette
très bon
union,
choix.
Cette même Union européenne
c'est
que la droite a soutenue pendant des années avec vos gouvernements,
mais
votre gouvernement.
Non, mais attendez, précisément, Laurent Wauquiez, François-Xavier Bellamy ou moi, nous ne sommes pas comptables du bilan passé et même certains égards du passif de la droite d'autrefois. On essaie justement de construire une droite nouvelle avec des solutions nouvelles. Dans le monde d'aujourd'hui, dans la France de 2019, on a besoin d'être créatif. Les vieilles solutions, les vieilles recettes, l'Europe qui s'élargit, l'Europe des normes, l'Europe de la bureaucratie, ça, c'est l'Europe de M. Macron. De l'autre côté, vous avez avec Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan les partisans au fond du Frexit. On voit ce que ça donne le Brexit au Royaume-Uni, le Frexit, ça serait pas terrible non plus. Nous, ce qu'on
Marine
incarne, c'est
plus,
un autre
n'est
chemin.
N'est plus du tout sur cette piste. Enfin... Ah,
bien sûr que si. Elle est toujours, Sonia Mabrouk, vous faites bien de me relancer là-dessus, elle est toujours sur l'idée de la sortie de l'euro. Lorsqu'elle parle de la souveraineté monétaire retrouvée, ça veut dire le rétablissement du franc, ça serait catastrophique.
Guillaume Larrivé, c'est une phrase d'Emmanuel Macron qui fait beaucoup réagir. Quand on est fragile, on ne se met pas dans des situations comme celle-là. Phrase à l'intention de la septuagénaire, blessée à Nice, toujours hospitalisée. Le président qui lui souhaite aussi un prompt rétablissement. Elle vous a vraiment choqué cette phrase ?
Je pense qu'un président ne devrait pas dire ça. Un président de la République, Emmanuel Macron, souvent...
C'est pas de l'opposition pavlovienne,
ne
là.
Ne fait pas preuve d'humilité, non.
Guillaume Larrivé.
Non, j'ai écouté cette phrase.
Le même responsable qui, il y a quelques semaines, aurait dit « Mais il faut plus de fermeté, il faut justement
oui,
interdire certaines places aux manifestations. »
La fermeté et l'ordre républicain, ça n'est pas le mépris. Ça n'est pas l'humiliation. Je pense que, bien souvent, Emmanuel Macron confond l'autorité dont il est dépourvu, et l'autoritarisme adolescent dont il fait trop souvent étalage. Je trouve que c'est pas bien de parler comme ça à une dame âgée qui en ce moment est à l'hôpital. Voilà, cette dame âgée, elle n'a pas des convictions que je porte. Moi, je ne suis pas d'extrême gauche, je ne suis pas un responsable d'attaque, contrairement à elle, mais elle a le droit de manifester.
Pourtant,
et je trouve qu'on a besoin d'avoir un peu de compassion à son égard.
En disant autoritarisme, vous portez presque le même combat d'une certaine gauche qui veut installer l'image justement d'un président autoritariste, voire plus.
Non, je ne pense pas. Moi, je suis très favorable à l'autorité de l'État, je suis favorable à l'ordre républicain, au respect de la loi, évidemment.
Donc
mais
samedi,
je ne suis
en
pas
début de soirée, vous étiez rassuré de voir qu'il n'y avait pas eu de casse, pas de pillage, que le dispositif mis en place a enfin porté
non,
ses fruits.
Pardon, Sonia Mabrouk, je vous le dis très directement, il ne faut pas faire preuve de myopie. Ce qui s'est passé samedi, c'est une chose assez simple. Les individus ultra-violents, les groupuscules gauchistes, ne sont pas allés au contact. C'est dans la durée, semaine après semaine, qu'on verra si le dispositif est performant ou pas. On verra. Vous savez, il faut faire une lecture attentive de ce que le maréchal Foch écrivait dans les Principes de la guerre. Foch disait que la faiblesse française, c'est l'inconstance. Eh bien, moi, j'attends du gouvernement, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, beaucoup de constance dans la durée. Il faut mettre hors d'état de nuire ces groupuscules gauchistes ultra-violents.
Lors de confidences rapportées par le JDD, le journal du dimanche, Christophe Castaner n'a pas hésité à vous tacler justement et à moquer votre expérience de terrain, ou plutôt votre inexpérience. Le ministre de l'Intérieur ironise en affirmant que vous avez dû lire des livres pour parler de sécurité. C'est le cas.
C'est vrai qu'on n'a pas exactement le même profil et je confirme à votre antenne, je le dis à Christophe Castaner, c'est parfois utile de lire des livres, c'est à la fois plaisant,
certes,
c'est instructif.
On peut faire du en même temps.
Et c'est même bien
pas
parfois
sur le terrain,
d'essayer d'en écrire. Quant à l'expérience du terrain, j'ai pas été ministre de l'Intérieur, ça j'en conviens, mais après tout, j'ai déjà passé 7 années quand même dans les cabinets de Nicolas Sarkozy, de Maurice Hortefeux, Place Beauvau, à l'Élysée, donc ça donne aussi une petite expérience.
Voilà la réponse à Christophe Castaner. Merci Guillaume Larrivé d'avoir été notre invité ce soir.
Merci beaucoup Sonia Mabrouk, 19h19.
17h, 20h. Mathieu Béliard sur Europe 1.
Le rappel de l'info avec Marion Calais.
Des annonces tous azimuts à l'occasion de la visite du président chinois en France. Commande de 300 Airbus, contrat avec EDF pour 1 milliard d'euros visant à développer l'éolien en mer. Levée de l'embargo également sur la volaille et ouverture aux coquillages français. Des retards encore jusqu'à ce soir pour le trafic des TGV entre le sud-ouest et Paris. Conséquence d'une occupation pendant plusieurs heures en gare de Vendôme dans le Loir-et-Cher. Opération des salariés du papetier Arjo-Wiggins placé en redressement judiciaire. Il contestait son renvoi en correctionnel dans l'affaire de corruption et trafic d'influence révélée par des écoutes téléphoniques. Les recours de Nicolas Sarkozy ont été rejetés aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris. L'ancien chef de l'État va se pourvoir en cassation.
Merci beaucoup Marion Calais.